demandais ce qu'était le groove, ce mot d'argot des musiciens de jazz qui est passé dans le langage courant et qui renvoie autant au rythme qu'à la justesse et au talent. C'est un mot qui échappe à la traduction autant qu'aux définitions. Le groove, c'est une sensation. Une sensation de la musique, du flow, de la structure rythmique. Et c'est sans doute pourquoi moi, je l'associe à la radio. À mes débuts à la radio, il y a presque 15 ans de ça, chez Nova, aux côtés d'un génie, à mon avis, qui s'appelait Juan Masseña et qui m'a permis d'y faire mes premiers pas. Je me souviens de la façon dont il parlait à la radio, comme il faisait sonner sa voix. Je me souviens qu'il était debout, devant le micro, et que son corps se balançait en même temps qu'il parlait. Je me souviens de ses gestes de radio, en particulier lorsqu'il jouait un disque, tant et si bien qu'encore aujourd'hui, j'ai la conviction qu'une émission réussie repose sur la façon dont on lance la musique. Cette connaissance du rythme qui lui venait précisément du jazz et du funk qu'il écoutait depuis toujours, cette oreille quasi absolue, cet art de la mesure électrisait sa façon de parler, de bouger, d'être devant un micro. Et je vais vous dire, pour moi c'est ça, la radio, c'est cette maîtrise du tempo qui va tellement de soi qu'on ne réfléchit même pas. C'est l'indéfinissable groove de Juan Masseña dans son Voodoo Club sur Nova.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il le groove? En une poignée d'années, sa voix androgyne, ses arrangements sophistiqués ont fait de lui l'un des artistes les plus intrigants de la pop hexagonale, ce qui lui valait l'année dernière une nomination aux Victoires de la Musique pour son album Tempérament. Son nouveau disque 3 vient de paraître, hypersensible, solaire, tour à tour feutré, vertigineux, ravageur. Bonjour Malik Djoudi.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. D'abord, à quoi ça tient le groove, à votre avis?
Le groove, je crois que c'est un tout, c'est une alchimie, c'est quelque chose qui rentre en nous, c'est comme une transe, c'est une belle musique, c'est des instruments qui chantent.
Quand est-ce que vous en avez découvert l'existence du groove, d'abord en tant qu'auditeur qu'amateur de musique?
Je crois que la première fois c'était à 6 ans, devant un clip de Michael Jackson et je sentais vraiment le groove, ce Thriller, oui.
Et c'est intéressant parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que le groove, c'est d'abord quelque chose que vous associez à la musique anglo-saxonne. Vous parlez d'ailleurs volontiers d'un groove anglo-saxon. Qu'est-ce qui en fait la spécificité pour vous?
Je crois que ce sont peu de choses, en fait. Ce sont peu d'éléments. Et comment peu d'éléments chantent ensemble, groove ensemble. Juste une batterie avec une basse, déjà, essayer de faire groover ça. Et vraiment, en étant minutieux, c'est presque un travail d'orfèvre. Le groove.
Mais rassurez-moi, les Français ont le groove parfois aussi.
Bien sûr, les Français ont le groove et on dit parfois les Américains ou les Anglo-Saxons groove mieux, mais non, je ne pense pas, c'est juste des recherches et les Français bien sûr groove.
Qui a le groove chez les chanteurs français, chez les artistes français, chez les musiciens que vous avez toujours écoutés, Malik Djoudi?
Je crois que Serge Gainsbourg avait le groove.
Ouais.
Oui, Balavoine avait le groove. Et beaucoup d'autres, Yves Simon avait le groove.
Mais vous, précisément, Malik, comment vous faites pour faire groover un morceau? Techniquement, ça tient à quel rythme, quels instruments, quel tempo?
Sur cet album, par exemple, ce sont des tempos assez lents, en fait. Et comment faire groover les choses assez lentement? Et c'est beaucoup de temps en studio à écouter les choses jusqu'à ce que vraiment il s'opère une transe, quoi. J'aime beaucoup la transe, que ça rentre vraiment en nous, que ça me donne des frissons, quoi.
En fait, vous écoutez votre corps.
Exactement, j'écoute mon corps et je trouve que le groove, c'est une porte d'entrée, vraiment un accès au plus profond de nous-mêmes.
Vous savez quoi, j'ai envie qu'on l'entende, ce groove, et qu'on en profite pour se plonger dans l'univers musical que vous déployez pour nous depuis 4 ans maintenant, Malik Djoudi. C'est d'abord ça. C'est aussi ça.
J'hésite, je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament.
C'est aussi un point sensible.
Montre-moi ton point sensible.
C'est intéressant, Malik Djoudi, parce que la reconnaissance, elle est arrivée assez tardivement dans votre carrière, grâce au titre Sous Garantie notamment. Et ce qui est fou, c'est que c'était précisément au moment où vous envisagez d'arrêter la musique. Pourquoi vous vouliez tout plaquer ?
Parce que je faisais plusieurs projets et il y avait vraiment pas de projet qui fonctionnait. J'avais vraiment cette envie de faire quelque chose qui vient vraiment de mon cœur, de mon esprit.
Comme si vous ne vous étiez pas trouvé, en fait.
Exactement, je me trouvais pas. Et artistiquement, je ne me trouvais pas et personnellement non plus. Et vraiment, c'est le départ d'un être très cher qui est ma grand-mère, vietnamienne, qui a fait que je suis parti sur cette terre natale, le Vietnam, pendant un mois et demi. Je pense que j'ai repris confiance en moi. J'ai retrouvé un endroit que je ne connaissais pas, mais qui me ressemblait.
Et ce voyage initiatique, à vous entendre, il vous a aussi permis de renouer avec votre langue, le français, alors même que pendant des années, vous aviez écrit et chanté en anglais. Mmh. Pour quelle raison ?
Parce que je pense certainement que je me cachais.
On peut se cacher derrière une langue.
On peut se cacher derrière une langue. Et je pense que aussi l'anglais est peut-être plus musical et plus facile à faire groover. Et le français peut-être plus difficile à écrire. Vous savez, je pense que un joli texte en chanson, c'est un texte qu'on n'entend pas. Ouais. Qui ne déraille pas. Et l'anglais est plus fluide, mais le français peut l'être tout autant.
Alors ça a complètement changé votre façon d'écrire, je suppose, d'envisager les textes de vos chansons, d'envisager les mots, Malik Djoudi.
Oui, c'est... J'écris sur les sonorités, vraiment. C'est quelque chose qui arrive vers la fin de la composition. Et vraiment, j'ai découvert un terrain de jeu indéfini, quoi. Un grand terrain de jeu, quoi. Et vraiment, d'écrire, c'est vraiment une passion aujourd'hui de pouvoir écrire en français.
Ça veut dire que les mots, vous les choisissez un par un pour leur son?
Exactement. Exactement. Pour moi, le mot, c'est de la musique. Et le son du mot doit être des notes, c'est des fleurs dans la musique.
C'est pour ça que le sens de la chanson finit par nous échapper, à tous. Hein. Si c'était ça, un bon texte de chanson, ça, un texte qui échappe à son auteur, Malik Djoudi.
Ah, vous savez, c'est vraiment un texte qui échappe. Et parfois, je comprends le sens d'une chanson 2-3 mois après l'avoir faite. Et ce que j'adore, c'est quand le public vient me voir parfois en me disant « Écoutez, cette chanson, pour moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et pour moi, elle ne voulait pas dire ce qu'on me dit. Mais j'adore que le fait que le public s'accapare les choses et, enfin, les chansons ne m'appartiennent plus et très bien qu'elles s'accaparent les chansons.
C'est vrai que c'est émouvant, nous ça nous arrive tout le temps, parce qu'il y en a une dans cette émission, vous vous en doutez forcément, qui nous échappe, vous la connaissez, c'est la culture, Malik, et son actualité complètement hors de contrôle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 30 septembre ?
Philharmonie des enfants, philharmonie des enfants.
Alors c'est que pour les enfants, hein. La Philharmonie de Paris a inauguré hier un espace entièrement dédié aux enfants, en tout 1000 mètres carrés au sein de la Cité de la Musique, dans le parc de la Villette, pour tous les minots de 4 à 10 ans, répartis en 5 espaces thématiques aux noms poétiques comme Forêt des sons ou Machines sonores. Le parcours propose de s'initier en s'amusant aux musiques, sons et bruits du monde. 32 installations proposent notamment de tester le silence absolu, de jouer à la star sur scène ou encore de s'essayer virtuellement à la direction d'un orchestre. C'est que pour les enfants, mais c'est aussi pour Augustin. Elle gang dans le game. La chanteuse Aya Nakamura devient la première française à être choisie pour proposer une expérience interactive dans Fortnite, le jeu en ligne aux 350 millions d'utilisateurs. Après Travis Scott ou Ariana Grande, l'interprète de Pookie et Jaja va donc rejoindre le club très fermé des stars invitées du jeu vidéo, qui entérine ainsi sa volonté d'explorer d'autres territoires que le gaming et devenir une vraie plateforme de divertissement en ligne, pas choisie au hasard. Aya Nakamura, je le rappelle, est l'artiste française la plus streamée dans le monde. You go girl.
Thierry Mugler est un touche-à-tout de génie, avant-gardiste, anticonformiste, visionnaire et perfectionniste.
Muglerissime, couturier de légende, mais aussi artiste et photographe, le créateur français Thierry Mugler est à l'honneur de Couturissime, une expo expérience proposée dès aujourd'hui par le Musée des Arts Déco à Paris pour retracer 50 ans d'exubérance et de style. Icône des années 80 et chantre d'une mode provocatrice, futuriste, spectaculaire, Mugler se dévoile dans une rétrospective totale qui mêle photos, sons, couture, parfums, l'occasion d'y revoir notamment quelques-uns des costumes qu'il a signés pour Céline Dion, David Bowie ou Madonna, show devant
un livre, le livre, les livres.
Et enfin, clic, clac, Fnac. Jusqu'à samedi, le salon Fnac Livre se réinvente et propose un format hybride mêlant événements en public et expériences numériques. Au Charc à Paris, mais surtout sur sa nouvelle plateforme, la claquefnac.com, l'enseigne propose au grand public de rencontrer près d'une cinquantaine d'auteurs, notamment Jean-Baptiste Delamo, lauréat 2021 du prix Fnac grâce à son puissant Fils de l'Homme, mais aussi Mario Vargas Llosa, Nina Bouraoui, Christine Angot, Joe Star ou David Diop, au top. Et le musicien Malik Djoudi, invité de Boomerang ce matin pour la sortie de 3, son troisième album. Malik, comment est-ce que vous avez commencé la musique? Vous vous souvenez?
Oui, mes premiers souvenirs, ce sont des chemins de campagne accompagnés de ma mère qui m'enchantait des chansons, elle me reprenait.
Quand vous alliez au marché, il paraît?
Oui, quand on allait au marché, on avait un petit marché dans le village. On y allait à pied, c'était pas si loin. Et c'est vraiment mon premier amour de la musique, c'est ça, c'est mon premier souvenir, c'est ces chemins. Et par la suite, il y avait un piano chez mes parents, et donc je tapotais. Mais j'ai jamais appris la musique. Voilà.
Il y avait un piano, mais personne n'en jouait dans la famille?
Un tout petit peu. Mais moi, je tapotais, et au départ, c'était pas très joli, je crois, mais au fur et à mesure, j'ai créé des accords. Et après, ma première histoire d'amour qui a duré 3 jours, j'ai fait une chanson à vers 11, 12 ans, je crois.
C'est intéressant que vous ayez appris la musique en parfaite autodidacte, Malik Djoudi. Cette approche très intuitive, qu'est-ce qu'elle vous permet encore aujourd'hui, à votre avis?
Je pense qu'elle permet de me mettre en danger, elle me permet de respecter aucun code, elle me permet...
Une fraîcheur, une spontanéité?
Oui, et puis elle me permet l'intuition.
C'est drôle parce qu'à vous entendre, la musique ça relève presque de la magie, j'ai l'impression.
Oui, je pense, moi quand je compose, quand j'écris, je me trouve un peu dans un état second. C'est un des seuls endroits où je ne pense à plus rien, et où je me laisse porter, où les choses arrivent, viennent, s'en vont.
Vous êtes traversé en fait?
Oui, complètement traversé. Vous savez, je travaille souvent tout seul en studio, et c'est avec mes machines, mes instruments, et c'est l'endroit où je me sens le moins seul au monde.
Cet amour du son, notamment, vous le partagez avec un grand producteur et musicien qu'on avait reçu dans cette émission, avec son compère du duo Cassius, quelques jours seulement avant sa disparition, c'était en juin 2019.
Un bon son, c'est ce qu'on puisse ressentir tous quelque chose en même temps, qu'il y ait une émotion très forte, et en même temps qu'on en prenne quand même un coup dans le ventre avec des bonnes basses, des bonnes aigus. S'il y a un côté où il faut qu'il y ait un peu de saleté et un peu de sueur, on n'aime pas trop quand c'est propre, il faut qu'il y ait un peu de sueur, et ça, souvent, ça viendra de l'analogique, et le digital nous amènera le côté un petit peu plus tac tac qui pète comme ça. Donc, en tant qu'assistant, ingénieur du son, j'ai voulu avoir un studio. Moi, ce que j'aime, c'est le, il y a un côté secret, il y a un côté magique, on a l'impression qu'on est en train de faire des choses. On est chez le gars qui transforme le plomb en or.
Le musicien et producteur Philippe Zdar à ce micro, il y a 2 ans, Malik Djoudi, vous ressentez quoi quand vous l'entendez, cette voix?
Très ému.
La figure de Philippe Zdar, en quoi est-ce qu'elle vous accompagne tout le temps?
M'accompagne parce qu'il a une, je pense, il a une vision de la musique différente peut-être de ce que l'on peut entendre, et il veut toujours pousser les choses, et il veut toujours pousser les gens avec qui il aime et avec qui il travaille, et pareil, il est autodidacte dans le son, et il a une espèce d'amour du son qui est incroyable, et surtout, vous savez, c'est quelqu'un que j'ai essayé de rencontrer toute ma vie, il y a 15 ans, je lui ai envoyé un mail avec quelques morceaux, et m'avait gentiment aidé, donné des conseils, et par la suite, il faisait une masterclass dans le sud de la France, et j'ai réussi à m'inscrire, et pendant 10 jours, nous avons été ensemble à plusieurs producteurs. Et voilà, c'est devenu un ami, et j'ai eu la chance par la suite de travailler un peu avec lui. Mais je pense beaucoup à lui. J'avais 2 photos dans mon studio pour la composition de 3. Une photo de Philippe et une photo de Christophe.
Qu'est-ce que vous lui devez, au fond, à Philippe Zdar? Quels sons, quelles approches sonores, Malik Djoudi?
C'est cette idée de magma, de socle, et de que la musique fasse un tout, et que le son, c'est la musique. Comment on peaufine le son, c'est vraiment, ça fait partie de la musique. La musique, c'est un tout, et ça ira même jusqu'à le mastering, la lumière, c'est la musique.
C'est la question que je l'avais posée à l'époque, vous vous en êtes douté, alors je vous la pose aussi. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la beauté d'un son, Malik Djoudi?
Je pense quelque chose d'intemporel, quelque chose parfois. C'est la simplicité, pour moi, c'est la simplicité apparente. Comment faire en sorte que On pense que c'est simplement, mais c'est quelque chose de façonné. C'est un joli costume, c'est tout simplement.
Parce que rien n'est au hasard.
Parce que rien n'est au hasard.
Philippe Sdar, c'est pas le seul fantôme de ce disque, il y a aussi Christophe. Et je remarque, c'est assez touchant d'ailleurs, que dès qu'on reçoit un ou une musicienne dans cette émission, il nous parle de lui. Pourquoi est-ce qu'il a tant marqué musicalement, Christophe?
Parce que je pense que c'était un ovni qui aussi n'allait pas forcément dans les codes et qui aussi avait un amour du son incroyable. Et c'était quelqu'un, je pense, quelque part, quoi, vraiment... qui se bat, et voilà, avec une voix magnifique, des mots magnifiques.
Et une immense technique.
Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, vous savez, c'était incroyable d'avoir quelqu'un de 70 ans qui avait un amour des synthétiseurs, mais incroyable, il pouvait passer des heures et des heures à vous en parler.
La mort de Christophe, moi, elle m'évoque aussi ce contexte si particulier du premier confinement, cette période, qu'est-ce qu'elle a produit en vous?
Elle a produit une impuissance, pour la première fois de ma vie, j'étais devant des feuilles blanches. J'avais ramené tout mon matériel chez ma mère et rien ne sortait. J'étais assommé. Mais pendant un mois, quoi. Mais ça m'a permis de prendre le temps des choses et de prendre du recul.
Une sorte d'assèchement, en fait, à vous entendre.
Ah oui, complètement d'assèchement et de. Je me suis vraiment retrouvé face à moi-même. Qu'est-ce que j'avais fait, quoi? Qu'est-ce que j'avais fait depuis ces années-là? Mais ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux dire que ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de revenir en sachant plus ce que je voulais faire.
C'est une vraie question, les mots, comment ils reviennent?
Sans qu'on aille les bousculer. Sans qu'on aille les bousculer, sans qu'on aille les chercher parfois. Vous savez, les mots, ils arrivent souvent, moi, quand je marche, quand je pense à autre chose. Et voilà, les mots, parfois, ne viennent pas du tout pendant... J'ai des chansons, juste deux mots ne sont pas. J'ai mis deux mois à trouver deux mots, c'est incroyable. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer.
C'est drôle parce que à vous entendre, moi je pensais que la musique devait toujours naître d'une sorte d'accident.
Ah oui, c'est vrai. Ça naît toujours dans pas tout le temps, mais souvent et bizarrement, ce sont souvent les plus belles chansons.
Avec Jeudi, qu'est-ce qui se passe quand on tombe?
Quand on tombe, on essaie juste de se rattraper, on essaie juste de se relever, on essaie de trouver les manières de se relever. Et moi, j'ai la chance d'avoir la musique pour ça. J'ai la chance d'avoir la musique pour avoir quelque chose auquel je me rattrape. Et voilà, je suis vraiment tombé bas, je crois, et la musique m'a sauvé, oui.
Alors on va tomber ensemble, mais pour se relever, si vous le voulez bien, avec 2080, nouvel extrait de votre album 3. Vous êtes sur France Inter, avec Malik Djoudi. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Thank you.
France Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
Il a la tendresse oursonne, le flegme du dandy, le sourire joconde, la générosité, le chic, le mystère, le cheveu brun, court mais prolixe, l'œil magicien, on l'imagine apprenti sorcier, casque sur les oreilles, devant un piano aux mille touches à faire danser les anges, avec ses souliers noirs, pantalon gris, chemise noire, veste noire, le musicien Malik Djoudi, invité de Boomerang ce matin pour trois, son nouvel album pour parler de musique, de son et de voix, la vôtre, de voix si reconnaissable. Quand est-ce que vous l'avez découverte?
Très jeune, vers 5-6 ans, parce que j'ai un maître d'école, vous savez, on a toujours un maître d'école qui compte beaucoup dans notre vie,
ouais.
Et il nous faisait chanter tous les lundis matin la chanson française, lui à la guitare, pendant 2 heures, on commençait la semaine comme ça.
Et vous chantiez quoi?
En chantait Brassens, Brel, Gainsbourg, mais aussi Carmen. Et j'ai découvert un peu cette tessiture de voix, et j'ai découvert surtout que ça me provoquait chez moi quelque chose d'étrange, d'impalpable, qu'on n'explique pas. Et donc, quand je chantais, ça me procurait beaucoup de plaisir, et encore aujourd'hui, ça me procure beaucoup de plaisir.
L'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais, jamais coutume de haine. C'est ça que vous chantiez?
Exactement.
Et c'était déjà à l'époque avec une voix de tête?
Oui, c'était une voix de tête, une voix d'enfant. Et j'essayais de respecter la tessiture de Carmen. Et je ne sais pas si c'était bien, mais moi j'aimais bien.
Mais c'est fou, parce qu'en fait, en adoptant une voix de tête par la suite, c'est comme si vous aviez voulu la garder, cette voix d'enfant, Malik Djoudi.
Oui, c'est quelque chose que j'ai voulu garder, parce que c'est... Mais l'enfance, c'est quelque chose que je veux garder, parce que l'enfance, pour moi, c'est l'insouciance. Et je pense être encore enfant, et dans ma musique, je le suis encore. Vous savez, je me sens toujours débutant. J'aime bien, quand je commence une chanson, tout reprendre à zéro et être insouciant. Et la musique me procure de l'insouciance.
Pourtant, ça demande énormément d'efforts, je suppose, de garder cette voix de tête, cette voix au perché, cette voix aiguë, à mesure que vous vieillissez.
Oui, mais j'ai la chance, ça c'est entre nous, mais j'ai la chance qu'elle reste là, elle est toujours là. Et je fais des concerts, des choses comme ça, donc ce qui me permet d'entraîner, d'avoir une certaine hygiène vocale. Mais elle est là, et je ne sais pas encore pour combien de temps, mais j'espère encore longtemps.
Vous avez pris des cours de chant aussi, je suppose. Quand est-ce que vous en avez ressenti le besoin?
J'en ai ressenti le besoin parce que je voulais mieux la placer, savoir respirer avec le ventre, et puis aussi tout simplement faire mon métier. Je pense que les cours sont quelque chose de bien pour vous mettre dans la profession.
Mais pour autant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une voix vous touche, Malik Djoudi, pour qu'elle vous émeuve?
Quelle est son identité? Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit pas comme une autre.
Vous pensez à quelle voix, par exemple? Des voix qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de chanter, comme vous le faites?
Je pense à James Blake, je pense tout simplement Serge Gainsbourg, je pense à Maria Carré, allez, j'adore Maria Carré, mais Carmen, et je pense Klaus Nomi.
Moi je pense à une autre voix, c'est celle d'Isabelle Adjani, que vous faites chanter sur un titre de votre disque, ça s'appelle « Quelques mots ».
Au fil des pages.
Isabelle Adjani?
Parce que Isabelle Adjani, première fois que j'entends Isabelle Adjani, c'est sur Pulmarine. Une chanson écrite avec Gainsbourg, elle est écrite, elle est aussi. Et je trouve qu'il y avait une pureté dans sa voix incroyable. Et...
C'est assez frappant, parce que sa voix n'a pas beaucoup changé.
C'est ça. Mais il y avait cette envie de retrouver cette voix sur ce morceau. Et Isabelle Adjani, parce que L'été meurtrier, Isabelle Adjani, parce que Muse... Parce que inaccessible, parce que rêve inaccessible, et les folies sont les seules choses qu'on regrette jamais, je crois, et j'avais cette envie, voilà, je voyais ce morceau avec personne d'autre, et j'ai eu la chance qu'elle ait accepté de le faire, et ça s'est fait très naturellement.
Comment vous avez travaillé avec elle?
On s'est rencontrés et on s'est dit qu'il serait bien de faire quelque chose artistiquement, et moi j'ai fait ce morceau, et j'ai mis du temps à l'écrire, vous savez, parce que je voulais que ça lui aille comme un gant, que ça soit délicat comme elle. Et je lui ai proposé le morceau et elle a accepté. Après, elle est venue en studio. Elle avait travaillé avant le morceau. Et elle est venue en studio et elle a fait 2-3 prises, je crois. Et c'était un moment, vous savez, suspendu dans le temps. Et c'était comme vous l'entendez là maintenant.
C'est pas Isabelle Adjani que vous avez choisi de reprendre aujourd'hui pour nous, c'est Barbara. Pourquoi Barbara?
Parce que Barbara, c'est souvenir d'enfance. C'est ce que me chantait ma mère. Et c'est l'insouciance. C'est beau, tout simplement.
Oh là là, vous êtes très ému, là. Il va falloir chanter, Malik.
Il va falloir y aller, oui.
Dis, quand reviendras-tu? Cette chanson en particulier, pourquoi?
Parce qu'il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui reviennent, et il y a des choses que j'aimerais bien les voir revenir.
Lesquelles?
L'amour.
Ça va revenir, regardez avec vos yeux. C'est fou, je suis obligé de consoler. Oh là là. Du coup, je suis très ému. Dis, quand reviendras-tu, une chanson de 1962. Et pendant qu'on parlait, votre pianiste, Maxime Daoud, s'est glissé dans le studio pour vous accompagner. Malik Djoudi et Maxime Daoud, donc, c'est à vous deux. On y va?
C'est bon.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Et dis, quand reviendras-tu? Et dis, au moins le sais-tu? Et que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûler les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue et je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Et dis, quand reviendras-tu? Et dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Tout le temps perdu ne se rattrape plus.
C'est fou, cette émotion. Elle vient d'où, Malik Djoudi?
Certainement d'une hypersensibilité quelque part, oui. Non, elle vient de l'enfance, elle vient des histoires, de l'histoire, elle vient de la famille, elle vient des amis, elle vient de la chance que j'ai peut avoir d'être ici, Augustin.
Et que vous êtes sur scène, c'est ce que vous essayez d'aller chercher aussi, cette hypersensibilité?
Quand je suis sur scène, c'est marrant, vous savez, je ne cherche rien. Je me sens juste à un endroit où... au meilleur endroit où je peux être. Et c'est vraiment un endroit où je ne pense plus à rien. Et je me pense juste peut-être à donner et recevoir. Mais je sens juste, j'ai envie d'avoir une communion. Qu'on soit ensemble.
C'est quelque chose que vous appréhendez, le retour sur scène, en concert dans toute la France, notamment le 25 novembre à La Cigale, qu'on attend avec impatience ici.
C'est comme on s'est arrêté, c'est un peu une revanche sur le temps qu'on a perdu. Et j'ai fait quelques concerts déjà, et vous savez, il y a cette chose-là, vraiment, cette revanche un peu, et on le voit du côté du public, et aussi, nous, on a vraiment envie d'y aller, parce que peut-être que demain, nous ne pourrons plus jouer, mais il y a cette idée de revanche sur le temps, ouais.
Merci tellement, en tout cas, d'être venu avec votre sensibilité, avec tous vos bagages, ici ce matin, dans Boomerang, vous nous avez chanté Barbara, dit quand reviendras-tu, c'était si beau, Maxime Daoud au clavier. Je voudrais remercier aussi Anne-Laure Cochet qui était à la technique ce matin.